Voilà, bonjour à chacun. Je suis heureux de d'ouvrir avec vous le Saint-Livre ce matin dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. J-5, normalement, selon ce que disent les Mayas, vous avez intérêt d'être vite en règle avec Dieu. Il vous reste 5 jours. C'est le 21, mes amis, le 21-12-2012. Alors le thème de mon message ce matin, avec un point d'interrogation, la fin du monde en 2012. Est-ce que tu es prêt pour le grand voyage? Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette matinée, c'est de voir ce que la Bible en parle, ce qu'elle en parle. Et il est intéressant pour moi, plutôt que d'aller à Bucarest me réfugier, de savoir ce que la Bible dit à propos du quand. Quand est-ce qu'aura lieu la fin du monde? De ce que la Bible dit à partir de où? Où est-ce que ça va se dérouler? Et puis surtout, la plus importante question, c'est comment s'en sortir. Parce que c'est intéressant de savoir où et quand, mais si au final c'est pour le même résultat, ça ne sert à rien. Donc c'est comment vous en sortir. Alors le texte que l'on lit ce matin dans Matthieu 24 était parole de Jésus lui-même, qui quelques jours avant de s'en aller vers son Père, nous a laissé au chapitre 24, au verset 3, des paroles assez claires. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et le prirent à part, lui demandèrent « Dis-nous, quand se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Je ne sais pas s'il y a des amis haïtiens dans la salle, mais beaucoup de peuples ont vécu des catastrophes dans ce sens. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Et parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Seigneur, conduis-nous dans ce message. Donne-moi de vraiment être respectueux de ta parole. Seigneur, de nous éloigner de mythes et d'histoires racontées par les hommes, de craintes ou d'angoisses qui seraient personnelles. Donne-nous de nous focaliser sur ce qui est ta parole, la Bible, que tu puisses nous instruire et nous édifier notre foi sur un bon fondement cette matinée. Et si tu as besoin, Seigneur, d'appeler quelqu'un en cette matinée à revenir à toi, Seigneur, et toute la liberté pour le faire, y compris moi en premier, Seigneur. Amen. Amen. Alors je suis heureux de voir un petit peu ce que les Mayas ont dit, très particulier, hein. Alors est-ce que c'est possible d'afficher l'image du fameux codex Maya? Alors voilà, ça c'est ce qui fait que beaucoup de publicitaires, comme ceux qui ont fait le film La fin du monde en 2012, et beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent sur la peur de ce qui est une stèle qui a été découverte à Mojara, donc en pays maya. Et c'est à partir de ce texte-là, cette vieille stèle, où il y a des chiffres en écriture maya. Bon, les Mayas étaient des fanas de chiffres, hein. Il y a des chiffres partout, dans tout leur temps, tout le temps. Et une fameuse date, c'est 5125 années, c'est un cycle du compte long selon le calendrier maya, et donc c'est la fin du 13e Bat Kun, qui disent, enfin, si vous allez être inondé de ça à la télé pendant les 4 jours qui viennent. Là. Après, vous en entendrez moins parler probablement, mais bon. En tout cas, voilà, c'est la fin du 13e Bakhtun et les Mayas donc, disent que c'est le chiffre 13.0.0.0.0 et ça tombe pour nous dans notre calendrier grégorien le 21-12-2012. Alors les Mayas disent pas que c'est la fin du monde, ils disent que c'est la fin d'un cycle. Et donc certaines personnes, notamment dans le New Age, ont analysé ça comme la fin du monde. Mais c'est pas tant les Mayas, parce que les Mayas voyaient toute l'histoire de la vie en cycle, et donc la réinterprétation New Age, c'est la fin du cycle de la Terre. Juste la pyramide de Palenque aussi. Donc la pyramide de Palenque, c'est pareil, c'est là qu'on a trouvé donc les différents gravures et inscriptions. Et sur le site, enfin pour terminer, de Tortuguero, donc au sud-est de l'État du Tabasco au Mexique, pareil, il y a une série d'inscriptions en l'honneur d'un dirigeant de l'époque. Et il s'est marqué aussi donc l'inscription la fin du 13e Bakhtun qui a été déchiffré. Alors pour il y a des archéologues qui ont réussi à déchiffrer. Il sera achevé. C'est ce texte-là sur lequel est basée toute la crainte. Il sera achevé le 13e Bakhtun. C'est le 4 Ajo. Ah, puis ils ne savent pas traduire ça. Donc 3 Kankin. Il se produira une vue. C'est très mystérieux tout ça. Hein. C'est la représentation de Bolon Yotke. Et ça, on sait que c'est un des dieux qui s'appelait le dieu inconnu. Dans une grande cérémonie d'investiture. Alors après, on a retrouvé d'ailleurs en mai 2012 sur le site de Xultun, on a trouvé des hiéroglyphes qui, par contre, parlaient du continuer les calculs en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait des calculs mayas qui prévoyaient ce qui allait se passer en l'an, ce qui correspondrait pour nous en l'an 5000 et en l'an 6000. Donc on a un petit peu le temps encore. Mais voilà. Alors qu'est-ce que dit la Bible ? Parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc ce que dit la Bible. Alors, on a Matthieu 24 devant les yeux, et la Bible donne quelques signes du retour de Jésus, de la fin du monde. Il y a des signes qu'on voit, des signes physiques, puis des signes assez précis quand même. C'est étonnant parce que je remarque, on peut reprendre ensemble le verset 4, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront en mon nom en disant je suis le Messie, ils tromperont beaucoup de gens. Bon, il y a toujours eu des sectes, hein. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se multiplie. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, quand vous êtes un farfelu, un dangereux, vous pouvez convaincre votre village. Pendant des années, ils pouvaient convaincre leur village, et s'ils étaient vraiment forts, ils arrivaient à convaincre le village d'à côté, et le tout, ça faisait 500 personnes. Mais aujourd'hui, avec Twitter, Facebook, le verset d'après nous dit « Vous entendrez parler ». Et le développement des moyens de communication, et c'est vrai que l'époque d'Internet, n'importe quel jeune, même isolé dans sa campagne, s'il veut rentrer dans un modèle psychédélique sectaire, c'est assez facile en fait. Hein. Sur Internet, il y a tellement tout et n'importe quoi qu'il y a une possibilité de croire à un faux messie. Bon, par contre, menace de guerre, parler de beaucoup de guerre, ça c'est clair. Ne vous laissez pas troubler, ce ne sera qu'un début. Il y aura des famines. Bon, il y en a régulièrement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans le siècle prochain. Je sais que le 20e a été un siècle assez dramatique. Nous, on est assez protégés, nous qui sommes en Europe occidentale. Mais quand on voit ce qui s'est passé au niveau du monde, il n'y a jamais eu autant de personnes, bizarrement, même s'il y a eu des progrès de l'agriculture, qui sont morts de faim à cause de l'accroissement de la population. Pour ceux qui regardaient notamment en termes de mort l'Afrique, mais surtout la Chine, et ça, c'était il n'y a pas longtemps, en fait. Quand vous regardez la révolution culturelle chinoise et ces 40 à 50 millions de Chinois qui sont morts de faim. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ce que ça veut dire en termes de millions. 50 millions, c'est des chiffres épouvantables. Les chambres à gaz qui sont terribles et la mort des Juifs, c'est 7 millions. Mao, avec son programme, a réussi à faire 50. Staline, on considère qu'il y en a entre 10 et 15 millions qui sont morts. C'est des quantités de personnes mortes de faim de façon assez effrayante. Des tremblements de terre en divers lieux. y en a toujours eu. Alors vous voyez, c'est pas évident parce que il faut être équilibré et faut pas dénigrer non plus. Il y a toujours eu des tremblements de terre, tout le temps. C'est structurel sur la Terre. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est vrai, les sismographes, c'est qu'il y a plutôt une accélération des tremblements de terre et du fait aussi de la densification de la population, c'est de plus en plus meurtrier. Quand on voit ce qui se passe aussi bien avec le tsunami qu'avec ce qui s'est passé, les deux tsunamis, pour l'Indonésie, pour le Japon, pour Haïti, pour le tremblement de terre, ce ne seront que les premières douleurs. Des faux prophètes, ensuite au verset 11, beaucoup abandonneront la foi. Pour l'instant, la persécution est quand même, elle n'est pas si forte que ça. Et j'ai pas entendu beaucoup de pasteurs prêcher dessus, mais le verset 9 nous dit « Alors on vous persécutera, on vous mettra à mort, toutes les nations vous haïront à cause de moi. » Pour l'instant, ce n'est pas quand même le cas. Il faut être réel, il faut être honnête. Il y a quand même des endroits où il y a des nations qui sont très favorables et qui protègent ceux qui lisent la Bible. On a une liberté ce matin. On n'est pas encore dans le verset 9. Mais ça veut dire que ça viendra. Nombreux faux prophètes, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Il faudra que la bonne nouvelle du règne de Dieu soit proclamée dans le monde entier. C'est à peu près fait. C'est à peu près fait aussi. Donc, il ne reste plus grand-chose, mes amis, si ce n'est quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais c'est la persécution. Le seul verset qui ne serait pas appliqué encore est le verset 9 sur la persécution généralisée dans le monde entier. Le jour où les USA auront lâché leur constitution, ça sera possible. Voilà. Quelques réflexions concernant le livre de Luc. Est-ce que c'est possible qu'on tourne en Luc 21 ? Luc 21. Pour la sono, je suis désolé de vous faire des efforts, mais Luc 21. Luc 21. Au verset 22. Alors, il y a un mélange de ce qui s'est passé en 70 à Jérusalem avec la destruction du temple par Titus, donc le général romain. Et Jésus dit bien que ça sera que le commencement. Il dit « Ces jours-là seront des jours de châtiment », verset 22, « où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ce jour-là aux femmes enceintes, à celles qui allaitent, car le pays connaîtra une terrible épreuve, le jugement s'abattra sur ce peuple. » Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand Jésus a écrit ça, quand Jésus a dit ça, c'est incroyable, parce que le temple de Jérusalem était encore en place. Et il y a un autre passage, il dit « Cette génération ne passera pas que cela ait lieu. » Et au moment où Jésus le dit, ça se passe relativement bien. En Israël, les Romains, c'est clair, sont la puissance dominante, mais il n'est pas question de raser le peuple juif et de raser le temple à ce moment-là. Et donc, quand Jésus dit « Attention, il va y avoir un temps où les femmes enceintes à Jérusalem seront dans le malheur. » Et donc, quelques années plus tard, effectivement, en l'an 70, si on considère que Jésus est prêché vers l'année 30, c'est-à-dire 40 ans plus tard, vous voyez, c'est une génération, ces habitants seront passés au fil de l'épée et déportés dans tous les pays étrangers. On lit ensemble le verset 24. « Jérusalem sera occupée par les païens jusqu'à ce que leur temps et leur domination soient révolus. » Alors ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que si vous aviez vécu jusqu'au 19e siècle, ça, c'était un des versets qui n'était pas applicable encore. Parce que Jérusalem était toujours un mélange de quartier chrétien, quartier musulman, quartier juif, mais il n'y avait pas d'État d'Israël. L'État d'Israël avait été complètement rayé de la carte pendant des années. Et en 48, lorsque est reproclamé l'État d'Israël, c'est la première fois où Israël reprend possession, et puis après, avec la guerre des six jours, reprend possession de toute la zone de Jérusalem. Et donc, jusqu'à ce que leur domination soit révolue. Et là, effectivement, aujourd'hui, c'est Israël qui dirige la politique là-bas. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et sur les étoiles. Sur la terre, tous les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors ça, c'est assez étonnant, c'est que dans les temps de la fin, il y aura donc des cataclysmes qui seront au niveau de la planète Terre. Bon là, pour le coup, même les scientifiques sont d'accord. Hein. Il suffit qu'un astéroïde géant, une comète, soit un peu audacieuse et qu'elle fasse une petite visite par l'atmosphère terrestre, ça vous fait l'effet de 1000 bombes nucléaires. Il en faut qu'une, en fait, hein, et ça provoque des conséquences considérables. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit d'ailleurs que le soleil peut disparaître. Puis on se rend compte, moi j'avais mon père donc, qui a agrégé en géographie, voilà, qui n'est pas du tout dans une optique de survivalisme, attention, il faut construire un bunker, etc. Hein, je vous rassure, pas du tout. Mais il disait, c'est vrai que, par exemple, sur le parc du Yellowstone, aux États-Unis, donc dans l'état du Colorado, c'est le plus grand volcan en semi-sommeil du monde. Il suffit que, désolé pour les Américains, pour le coup, là, c'est le seul endroit où c'est très dangereux avec la faille de Californie, mais de San Francisco. Mais là, au Yellowstone, si le Yellowstone explose, qui peut arriver d'un moment à l'autre, puisque les volcans sont imprévisibles. En Islande, ils ont réussi à nous paralyser toutes les transports à l'époque de Noël, il y a quelque temps, avec deux ou trois volcans un peu audacieux, là, qui nous ont détruit le il n'y a plus de lumière, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quand même assez frappant. Je me suis dit, mais pour les Islandais, eux, ils ont dû avoir sérieusement peur. Vous arrivez le matin, vous vous levez, il n'y a plus de soleil. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épaisseur du nuage. Les gens, ils étaient avec la lampe torche à 3h de l'après-midi, quoi, parce que l'épaisseur de cendre était tellement forte. Et si le Yellowstone, c'est par rapport au volcan imprononçable islandais, le Yellowstone, c'est 1000 fois plus fort, hein. Si c'est le Colorado qui explose, avec les vents, on va avoir une nuit généralisée dans le monde. Et ça fait partie des signes, d'ailleurs, déclarés dans l'Apocalypse. Mais ça peut être aussi une comète ou quelque chose qui tombe et qui fait un champignon après de poussière. C'est possible. Alors, Bucarache, la question 2 et la deuxième, c'est alors comment on peut échapper, où est-ce qu'on doit aller ? Alors regardons Bucarache. Vous voyez le pic de Bucarache ? Donc c'est la galère là-bas. Je parlais à un des responsables de l'ONDSE qui analyse les dérives sectaires et puis la MIVILUD, la mission interministérielle de la lutte contre les sectes, l'UNADEFI. D'ailleurs, vous allez les entendre probablement à la télé. Non, ça c'est l'autre. C'est pas Bucarache. Bucarache, c'est l'autre colline. Voilà. C'est la petite colline bien française. Je retrouve l'autre, il y a un peu trop de soleil pour que ce soit Bucarache. La petite colline française, donc Bucarache, et c'est là, ils sont sur le pied de guerre, les gendarmes à l'heure actuelle. Donc j'avais le responsable de l'ONDSE qui était dans cette salle samedi dernier et qui me disait pour les RG, pour les personnes de la MIVILUD, ils sont en permanence là-bas pour essayer de contrôler parce qu'on a peur de suicide collectif. On a peur que les gens foncent vers là-bas. Tout ça parce que ça fait partie. C'est un des sites que, selon des calculs très scientifiques, etc., New Age, mélange de New Age et de Maya, on serait à peu près épargné Bucarache. Et donc, ils sont des milliers à se précipiter là-bas. Je me dis, mais pourquoi ils ont peur ? Pourquoi vous avez peur ? Non, parce que vous faites les durs comme ça, mais vous avez quelque part une petite faille. J'étais étonné de voir Yves Calvi dans C'est dans l'air, qui est un homme très intellectuel et très, très raisonnable. Quand il en parlait, il se rassure, non, mais ça n'arrivera pas, oh là là, les sectes, oh là là, les fous, les extrémistes. Mais il y avait comme un petit moment, des fois, dans sa voix où il se dit, si par hasard, il y a 0,00001 chance que ça se produise. Mais si par hasard ça se produisait, pourquoi ont-ils peur ? Parce que la seule chance, si la fin du monde est prononcée, que Dieu organise la fin du monde, la seule façon de s'en sortir, c'est de connaître Dieu. Et c'est d'avoir une relation amical avec Dieu. Alors ma question, c'est est-ce que vous avez une relation amicale avec Dieu ? parce que vous avez regardé suffisamment de films d'extraterrestres où le seul objectif du héros, c'était de devenir ami avec l'extraterrestre pour essayer de s'en sortir ou piquer son vaisseau. Donc, il y a un moment où, laissons tomber les extraterrestres, mais par rapport à Dieu, la seule façon de s'en sortir, c'est est-ce que Dieu connaît ton nom ? La Bible dit, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie ? La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et je voudrais juste lire dans le livre des Galates, c'est pareil, on peut chercher ensemble dans Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5. De Corinthiens, Galates. Ça vous oblige à chercher votre Bible, mais... Alors, qu'est-ce qu'il est dit ? Et c'est pour ça que les personnes ont peur. Parce que si vous commettez le péché, ce qui agace Dieu, ce qui est écrit dans le livre comme étant des péchés, effectivement, vous avez un problème vis-à-vis de Dieu. Et dans Galates 5, au verset 19, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité et les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Waouh! Wow. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Et puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Et puis au verset 7 du chapitre 6, il dit « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, enfin de femme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire celui qui sème en voulant plaire à Dieu, en se laissant conduire par l'esprit de Dieu, moissonnera lui ce que produit l'esprit, c'est la vie éternelle. » Et pourquoi ils ont peur ? Parce que ils n'ont pas de communion avec Dieu. Et même quelqu'un qui se dit chrétien de tradition, qui soit né orthodoxe, qui soit né catholique, qui soit né protestant, qui soit né évangélique, si à titre personnel, tu sais dans ton cœur que Dieu c'est qu'une tradition, ça ne te sauve pas. Ça ne te sauve pas, il faut plus qu'une tradition pour être sauvé, il faut une amitié. Plus qu'une amitié, il faut un père. Il faut un père. Et la Bible dit que celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire celui qui croit et qui va se mouiller pour Dieu, sera sauvé. L'Esprit témoigne à notre esprit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc moi, je suis assez serein que si c'est mon père qui revient, il va m'embarquer, vous voyez. Encore si j'étais son ami, on est tellement nombreux, peut-être qu'il m'oublierait. Mais vu que je suis son fils, enfin, en général, il y a des mamans dans la salle, il y a des papas dans la salle. Si c'est votre enfant qu'il faut sauver, vous allez vous précipiter vers lui. C'est pour ça que c'est bien d'être des sympathisants de Dieu, mais ça ne suffira pas. C'est bien d'avoir une tradition, mais ça ne suffira pas. Vous dites, mais est-ce que si je suis un ami de Dieu ? Oui, mais Dieu cherche des enfants. Ses enfants. Il revient pour chercher ses enfants. Où est-ce qu'il va revenir ? C'est possible de remontrer l'image, Sarah, si tu veux bien ? Les gens qui sont allés à Bucarest, ils se sont trompés de montagne. Je ne leur en veux pas, ils ne lisent pas beaucoup la Bible. Mais c'est l'autre montagne, voilà, c'est celle-ci. Ça se ressemble d'un côté, sauf qu'il y a un peu plus de soleil aujourd'hui. Quelle est cette montagne ? C'est le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est à Jérusalem et c'est dans Zacharie. Est-ce qu'on peut prendre ensemble dans Zacharie, au chapitre 14. Zacharie, au chapitre 14, à propos du retour de Dieu, il est dit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » Ce n'est pas Bucarache. Mais en fait, ce n'est même pas ça, parce que... Bon, je vais aller un petit peu plus loin. Dans le livre des Actes, vous savez, lorsque Jésus est parti vers le ciel, c'est pareil, c'était très clair. C'est quand je lis dans Actes 1, oh, ne cherchez pas, je vais vous le lire parce qu'il y a beaucoup de textes, au verset 7, il est dit, il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc arrêtez de faire des calculs. Arrêtez de faire des calculs. Par contre, il est dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leurs vues. Ils regardaient encore, les yeux fixés au ciel. Et pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dit, « Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous ainsi ?» restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alors, les apôtres quittèrent la colline que l'on appelle le mont des Oliviers, située à 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. C'est là que notre Seigneur va revenir. Mais en fait, ça ne vous concerne même pas et ça ne sert à rien d'y aller là-bas. Parce que la Bible dit que le voyage, vous allez le faire, mais pas tout à fait dans le même sens. Au lieu d'aller vers Jérusalem, vous allez être translaté plutôt vers le haut. Et c'est ce que l'on lit dans 1 Thessaloniciens. C'est un des derniers textes qu'on lit ce matin. 1 Thessaloniciens. J'essaye que ça soit une étude biblique la plus complète possible, mais avec le temps qui m'est imparti, c'est difficile, mais vous avez l'essentiel des textes là quand même. 1 Thessaloniciens 4, au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez, que vous laissiez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie, au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Puis après, il décrit encore les mêmes signes qui doivent vous prévenir et vous alerter. Donc en fait, est-ce que j'ai besoin de me délocaliser à Bucarache ? Non. Est-ce que j'ai besoin, parce que je suis chrétien, de foncer à Jérusalem ? Non. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit Jésus, revient une fois que vous êtes déjà mort. Eh bien, vous inquiétez pas, vous allez décoller. Et soit Jésus revient alors que vous êtes encore vivant, vous inquiétez pas, vous allez décoller. Dans les deux cas, c'est pareil. Dans les deux cas, vous allez à la rencontre de Jésus. Et en fait, ce qui se passe, je n'ai pas le temps de faire une étude plus précise, mais lorsque Jésus revient, c'est un autre moment. Il va revenir donc en fait à la fin du monde. Mais j'espère que vous ne serez pas là. J'espère que vous aurez eu la grâce d'être enlevé avant, puisque le texte de la Bible, et c'est encore une autre étude, je ne vais pas l'aborder ce matin, mais si vous êtes en règle avec le Christ, en fait, il y a un moment où Jésus enlève son Église. Il n'enlève pas les évangéliques. Il n'enlève pas les catholiques, il enlève pas les... il enlève toute personne qui a Dieu comme Père et qui a été réconcilié par lui, qui a été réconcilié par l'œuvre de Jésus à la croix. Et hop, la personne part vers le ciel. Mais il y a des personnes qui vont rester, et c'est là où aura lieu la grande tribulation. Bon, les chrétiens ne seront pas épargnés au début, parce que vous avez vu, ils se lèveront contre vous, il y aura des morts, des trahisons, etc. Mais il y a un moment où, pour que l'Église ne disparaisse pas complètement, Dieu enlève. Il y aura un enlèvement de l'Église. Et pour ceux qui restent, ben c'est là où il y aura la grande tribulation. Certains en ont fait un film, d'ailleurs, ils l'ont appelé du nom qui est marqué dans la Bible, qui s'appelle Armageddon. Armageddon, c'est dans la Bible, c'est le lieu où il y a de la grande bataille, où les nations se réunissent, Gog et Magog, et qu'il y a sur Israël et sur ce qui restera d'Israël politique, une bataille considérable. Tout ça, c'est écrit dans le livre. Et vous serez, j'espère, pas là. Et j'espère que vous aurez eu la sagesse de faire la paix avec Dieu. Parce que quand Jésus revient sur le mont des Oliviers, c'est pour dire game over. On arrête la folie sur la terre. Et c'est justement pour mettre un terme à tous ces massacres que l'espèce humaine aura engendrés. Alors ce matin, j'ai deux questions. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu réalises ce qu'il a fait? Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est dans Romains 3. Mais ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mes amis, il n'y a personne dans cette salle qui par ses propres forces peut être sauvé. Personne. 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 Personne ne peut se revendiquer « Je veux que Dieu soit réconcilié avec moi ». Vous ne pouvez pas le faire. C'est un acte qui peut venir que de Dieu. Et cet acte, il est déjà fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'ils disent que la bonne nouvelle soit annoncée partout dans le monde. Dieu, lui, il a fait le premier pas. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu a fait le premier pas. Il est venu sur la terre. Il a quitté son palais de gloire. Il s'est incarné en la personne de Jésus. Et là, sur la croix, il a dit « J'accepte de payer, puisqu'il faut qu'il y ait une condamnation. Il faut qu'il y ait une mort. Il faut que le sang coule pour que le péché, qu'on ne dise pas que ce n'était pas grave. » Qu'on ne dise pas que l'adultère, c'est pas grave. Qu'on ne dise pas que la violence, c'est pas grave. Pour qu'on ne dise pas que tes accès de colère sont pas graves. Pour qu'on ne dise pas que la façon dont tu t'énerves et quand tu parles aux personnes, c'est pas grave. Qu'on ne dise pas que ce qui s'est passé dans les camps de concentration, c'est pas grave. Pour qu'on ne dise pas que c'est pas grave, il fallait quelqu'un qui, sur la croix, ait porté tous ces péchés-là, les tiens, les miens. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Alors, il dresse l'autre question. Et toi, qu'as-tu fait pour Dieu? Celui qui croira, je crois, c'est bon. Non, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, si vous persévérez jusqu'à la fin. C'est pas si dur que ça, en fait. Mais ça demande un acte militant de dire, voilà, je me mouille pour Jésus, j'assume que ma façon de vivre à l'ancienne, elle est rayée. Je mets Dieu en premier dans ma vie. C'est ça qu'on dit être conduit par l'Esprit. C'est-à-dire, Seigneur, par ton Esprit, remplis-moi, viens en moi, habite en moi. J'abandonne ma vie, ma façon de vivre, mes désirs, mes pulsions, ma façon de diriger ma vie comme les autres. Et je me dis, voilà, ma priorité numéro une maintenant, c'est toi. On va fermer les yeux ensemble. voudrais vous laisser un temps de réflexion. Si la fin du monde avait lieu le 21 décembre 2012, est-ce que tu dirais Alléluia ou bien est-ce que tu dirais c'est la catastrophe ? La Bible dit veillez et priez parce que vous, pour pas que ce jour ne vous surprenne. Alors que tu es en train de prier à ta place, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, il est temps ce matin de le faire. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Peut-être il y a quelque temps tu t'es fait baptiser, mais tu t'es éloigné de Dieu, tu es revenu ce matin à l'église. Mais il y a une vraie distance entre toi et Dieu. Ah, c'est sûr, tu sais qu'il est mort à la croix pour toi, tu reconnais que c'est un sauveur merveilleux, mais ta façon de vivre actuelle ne correspond pas à une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Alors je vais te demander ce matin, si tu le veux, et je ne vais pas insister parce que ça ne te regarde que toi, est-ce que tu veux te lever à ta place ? Moi je vais fermer les yeux et je vais demander à chacun de fermer les yeux. Mais pour dire Seigneur, voilà, je me levais pour toi, je me levais devant toi. Et si tu le fais, c'est un acte fort parce que c'est un acte que Dieu voit, où tu dis Seigneur, voilà, un jour j'ai été baptisé, mais je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je veux remanifester mon alliance avec toi. Lève-toi à ta place si tu veux, maintenant. Ça ne te concerne pas les autres, ça te concerne toi. Si tu sens que cet appel maintenant est pour toi, lève-toi maintenant. Oh Jésus. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi sur la terre, de la même façon j'aurai honte de lui au ciel, mais celui qui n'aura pas honte de moi sur la terre, je le recevrai au ciel. Prenez vos responsabilités. Le salut s'approche de toi ce matin. Dieu est encore prêt à te pardonner, à te rappeler à lui. Seigneur, je te prie pour chaque personne. Toi, tu les connais. Je ne les connais pas, Seigneur, mais toi, tu connais chacun. Tout est à nu devant toi. Tu connais nos pensées les plus secrètes. Tu sais les actes que l'on fait. Tu connais notre communion avec toi, notre légèreté parfois. Et je te prie pour que ce matin, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, encore une fois, tu pardonnes les péchés de chaque personne qui se tient debout en ce lieu pour dire, Seigneur, je confesse que je ne vis pas à ta gloire et je veux changer ma façon de vivre. Seigneur, je te prie que dans ce lieu, tu passes dans chaque rang. En effaçant les péchés. Seigneur, réconcilie avec toi chaque homme, chaque femme debout en ce lieu. Au nom de Jésus. vais demander à chacun, on va tous se lever ensemble là maintenant, si vous voulez bien, on va tous se lever ensemble. Pendant que les frères s'approchent pour la Sainte Cène, on va parler à Dieu.
Dieu, c'est mon désir de te
dans la gloire. Jésus a donné une consigne à ses disciples. Il a dit, voilà, à chaque fois que vous vous réunirez, vous prendrez ensemble le pain et le vin qui symbolisent mon corps et mon sang qui a coulé pour vous. Et je vous demande de le faire en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Parce que ainsi, vous confesserez que je suis mort et ressuscité, que je reviens. C'est ça la foi des chrétiens. C'est ça la foi des chrétiens. C'est la base de toute ta foi. C'est je crois que Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il revient me chercher, qu'il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir et qu'il est temps pour moi aujourd'hui d'être en règle avec Dieu. Si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, examine-toi. Il a dit examinez-vous vous-même parce que si vous prenez la Sainte Cène de façon indigne, vous prenez un jugement contre vous-même. C'est le texte, c'est pas moi, je dis exactement le texte de la Bible. Vous prenez un jugement contre vous-même. Examinez donc vous-même. Alors, il n'y a pas obligation de prendre la Sainte Cène. Au contraire, vous la passez à votre voisin si vous ne voulez pas la prendre parce que vous n'êtes pas en règle avec Dieu et vous savez dans votre vie qu'il y a des choses que vous devez changer, que vous n'avez pas pris la peine de changer jusqu'à présent. Dans ce cas-là, passez la Sainte Cène au voisin. Maintenant, pour toute personne qui désire vivre d'une manière qui plaise à Dieu, que vous êtes engagé avec lui, que vous êtes mouillé pour lui, ça ne dit pas que vous êtes parfait, ça dit que tous les jours vous vous battez pour devenir comme Jésus. Et vous dites, Seigneur, j'accepte que tu me reprennes. Et quand j'ai tort, j'accepte, je me tais et je suis prêt à changer. Si tu as une dépendance ou quelque chose dans ton cœur qui te condamne, tu es en train de lutter contre. Alors tu peux prendre la Sainte Cène. Parce qu'elle est une source de vie pour toi. Elle est une source de vie pour toi. Alors que les frères commencent à distribuer, on va reprendre, Seigneur, Dieu, c'est mon désir de t'honorer, je te donne mon cœur. Est-ce que c'est possible de reprendre avec ce cœur qui dit « Je te donne mon cœur » ?
Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, de tout mon cœur, je te